Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour, merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme chaque samedi, nous allons revenir sur 7 jours d'actualité avec la rédaction. Cette semaine, notre invitée est une universitaire, professeure à l'Institut français de géopolitique de Paris 8, titulaire de la chaire Castex de cyberstratégie à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Bonjour Frédéric Douzet.
Bonjour.
Votre actualité est la sortie du dernier numéro de la revue Hérodote que vous avez coordonné, un numéro double entièrement consacré aux enjeux géopolitiques du cyberespace. Frédéric Douzet, quelqu'un a écrit il y a environ une vingtaine d'années qu'avec Internet, on était à l'aube de la fin des conflits. Manifestement, votre ouvrage démontre le contraire.
Oui, je crois que dans l'euphorie du début des années 90, avec la chute du mur de Berlin, avec l'expansion du réseau et les possibilités que ça offrait en termes de communication, de circulation de l'information, on s'est rendu compte que ça offrait plus de possibilités à des petits groupes, à des dissidents, et donc il y avait l'espoir que ça ferait tomber les régimes autoritaires. Mais plus d'informations et plus de démocratie ne signifie pas forcément la fin des conflits. Et ces outils ont aussi donné du pouvoir à des criminels et aussi à des États. Et on voit aujourd'hui une prolifération de conflits, à la fois pour le contrôle et la régulation de l'Internet. On voit des conflits qui sont liés à son usage, que ce soit dans le cadre de conflits politiques, même de combats militaires, de conflits autour de la guerre économique, d'activités de renseignement ou de politiques d'influence. On le voit notamment avec l'affaire Snowden. Et on a aussi beaucoup de conflits autour du respect de la vie privée, de la liberté d'expression et de la protection des libertés individuelles en général. Donc l'Internet est devenu à la fois un enjeu de conflit, un nouveau champ d'affrontement dans les conflits géopolitiques et puis aussi un nouvel outil dans ces conflits.
Nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission, mais d'abord un mot du Festival de Cannes, dont le palmarès a été donné dimanche dernier. Si le Turc Nuri Bilgöz Ceylan a reçu la Palme d'Or, la déception vient de Tombouctou, du Mauritanien Abderrahmane Sissako, chronique d'un village malien terrorisé par des islamistes armés. C'est le grand oublié de la compétition cannoise. En revanche, c'est la consécration pour le Québécois Xavier Dolan. À 25 ans, le jeune réalisateur du film Mommy a obtenu le prix du jury du Festival de Cannes qu'il partage avec le grand cinéaste suisse Jean-Luc Godard.
Je suis très nerveux et ému, donc l'émotion qui me gagne en contemplant cette salle mythique est bouleversante. Je suis éperdu de gratitude devant la reconnaissance de votre jury. La quantité d'amour aussi que nous avons reçu au cours de la dernière semaine me fait réaliser que c'est vrai. On fait ce métier pour aimer et pour être aimé en retour. C'est la revanche, en quelque sorte, de nos amours imaginaires.
Vous écoutez une semaine d'actualité. Depuis dimanche dernier, l'Europe a un nouveau Parlement. Il n'est guère différent du précédent, en ce sens qu'il est toujours dominé par deux grands regroupements de partis, les conservateurs avec 213 sièges et les sociaux-démocrates avec 190 élus. Pourtant, on a assisté un peu partout en Europe à une poussée des extrêmes, de droite comme de gauche, comme le souligne Tudor Tepeneag du Service international.
Les formations nationalistes anti-européennes progressent un peu partout en Europe. Il peut s'agir, selon les pays, des formations de la gauche radicale ou de l'extrême droite, parfois des deux à la fois. Même en Allemagne, où la coalition chrétien-démocrate sociaux-démocrate a bien résisté, le nouveau parti anti-européen, AfD, créé seulement en 2013, a fait un score de 6,5% et enverra des élus au Parlement européen. En Grèce, le pays probablement le plus durement touché par la crise, le parti de la gauche radicale Syriza arrive en tête, en avance sur la droite au pouvoir, mais à l'autre bout de l'échiquier politique, le parti néo-nazi Aube Dorée obtient entre 8 et 10% des voix. En Grande-Bretagne, le parti europhobe UKIP clame sa victoire et même un score historique, alors qu'en Italie, où la défiance vis-à-vis de l'Europe semblait donner un très bon score au parti populiste de Beppe Grillo, en Italie, le parti démocrate du premier ministre Matteo Renzi semble malgré tout largement devant. Un cas intéressant également en Espagne, où la droite au gouvernement remporte l'élection européenne d'une courte tête devant les socialistes, mais les deux grandes formations ont baissé de manière significative au profit de la gauche radicale et des nationalistes catalans.
Il y a donc le cas de la Grande-Bretagne où, pour la première fois en un siècle, ce ne sont ni les conservateurs ni les travaillistes qui arrivent en tête, mais un parti qui réclame la sortie de l'Union. Correspondance de Muriel Delcroix à Londres.
Nigel Farage savoure sa victoire ce lundi. C'est en effet la première fois en plus d'un siècle qu'un parti autre que les conservateurs et les travaillistes remporte un scrutin national. On n'attend plus désormais que les résultats en Écosse, où le UKIP devrait rafler son premier siège, ce qui veut dire qu'il l'emporte dans chaque région du Royaume-Uni et devient une vraie force politique nationale. Avec pour l'heure 28% des voix, le UKIP obtient donc 23 eurodéputés, 10 de plus qu'en 2009, devant les travaillistes qui en comptent 18 et dont les résultats s'avèrent décevants. Les conservateurs au pouvoir sont eux relégués en troisième position avec 18 sièges. Pour les libéraux démocrates europhiles, membres de la coalition, c'est la débâcle. Avec seulement 7% des voix, ils sont presque rayés de la carte en ne conservant qu'un siège de député. Autant dire que pour la classe politique traditionnelle, l'heure d'une sérieuse remise en question a sonné. Le succès du UKIP devrait avoir un impact immédiat et obliger les autres formations à clarifier, voire radicaliser leur position sur l'Europe, dans un pays largement eurosceptique. Et la perspective d'un référendum sur le maintien ou non du pays au sein de l'Union européenne semble plus proche que jamais.
Cas de figure quasiment identique en France où les conservateurs de l'UMP et les socialistes du PS sont distancés dans cet ordre par le parti extrémiste Front National. Nous y reviendrons dans la seconde partie de l'émission.
7 jours dans le monde.
L'Ukraine s'est donné un nouveau président. L'oligarque Petro Poroshenko, surnommé le roi du chocolat, a été élu dès le premier tour dimanche avec 56% des voix. Sa priorité est de rétablir les liens avec l'Est du pays, y compris par la force. Mais apparemment, la force ne marche pas très bien. Un hélicoptère ukrainien a d'ailleurs été abattu jeudi. Et la situation dans la région de Donetsk est particulièrement tendue. Anastasia Becchio.
Avec cette nouvelle journée noire pour elle, l'armée ukrainienne n'a pas lancé d'opération d'envergure hier, comme elle l'avait fait en particulier en début de semaine à Donetsk pour reprendre l'aéroport aux insurgés pro-russes. La zone de l'aéroport reste inaccessible, les écoles y sont fermées, la tension y est toujours vive. Dans le reste de la capitale du Donbass, la situation est tendue mais calme. La vie quotidienne a repris, les voitures circulent, des passants attendent leur bus. Dans le centre-ville, la plupart des magasins sont ouverts, mais la population est quelque peu désorientée et ne sait pas bien qui contrôle la ville, le maire ou les représentants de la République autoproclamée du Donbass. Des informations contradictoires ont circulé à propos d'un couvre-feu nocturne, mais elles n'ont pas pu être vérifiées. Une anarchie rampante commence à s'emparer de la ville. Un grand supermarché a été pillé. Hier après-midi, des hommes équipés d'armes automatiques et de lance-grenades sont arrivés devant le siège de l'administration régionale de Donetsk, affirmant être à la recherche de ceux qui ont dévalisé le supermarché. Ils ont fait évacuer le bâtiment aux mains des séparatistes depuis avril et fait démanteler les barricades. Il est temps, disent-ils, que les autorités de la République populaire du Donbass se mettent réellement au travail.
Frédéric Douzet, revenons sur Kiev. Est-ce que la situation actuelle, qui était une situation extrêmement tendue, était prévisible à votre sens ?
Je crois qu'on en avait senti les prémices, et puis on a quand même une répartition de population qui fait que on a des divisions qu'on pouvait déjà observer lors de la dernière élection présidentielle, avec une très forte corrélation entre le vote et l'appartenance linguistique et identitaire, notamment des minorités russes, et donc l'escalade des tensions est montée assez rapidement à partir du moment où la rébellion a commencé.
L'influence russe est réelle dans ce secteur, notamment sur la partie est de l'Ukraine.
L'influence russe, oui, bien sûr, elle passe par beaucoup de canaux. Je crois que ce qui est très intéressant dans cette crise, c'est de voir à quel point, justement, la dimension cyber est complètement entremêlée avec le conflit, ce qui montre bien que les conflits dans le cyberespace n'existent pas en dehors de toute réalité. On le voit par les campagnes que mène actuellement Poutine sur les réseaux sociaux, pour complètement discréditer les autorités ukrainiennes. On le voit par la manipulation de l'information et les rumeurs et les fausses informations qui circulent. Et puis, on voit aussi comment les réseaux sont utilisés pour mener des attaques, dont certaines sont en place depuis plusieurs années. Je pense notamment au virus Snake qui infiltre les systèmes informatiques de l'Ukraine et qui permet de récolter de l'information, de conduire un certain nombre d'opérations, sans pour autant que la Russie utilise utilise les pleines capacités que permettent les outils informatiques parce que il y a des risques de représailles et d'escalade du conflit, mais on voit comment tous ces nouveaux outils viennent en appui finalement des moyens traditionnels de faire pression sur un gouvernement et en appui tactique aussi des opérations militaires.
Vous voulez dire que la Russie avait anticipé un éventuel conflit ou guerre civile locale en installant une sorte de maillage avec les réseaux sociaux localement pour essayer de déjà d'espionner le voisin au cas où?
La Russie, comme beaucoup de grandes puissances, a développé des outils informatiques et cherche à infiltrer, dans le cadre de ses activités de renseignement, le maximum de réseaux informatiques. On a retrouvé une version plus ancienne et moins sophistiquée de ce même virus dans les réseaux du Pentagone.
Une semaine d'actualité.
Sarà un viaggio strettamente religioso.
Le pape François en visite au Proche-Orient. Le chef spirituel des chrétiens s'est rendu en Jordanie, puis dans les territoires palestiniens et en Israël. Un voyage religieux qui s'est finalement transformé en voyage politique, nous explique notre correspondante permanente à Jérusalem, Muriel Parado.
Deux images fortes resteront de ce voyage en Terre Sainte. Deux images pratiquement similaires. Le pape François se recueillant devant le mur de séparation à Bethléem, à côté des graffitis appelant à libérer la Palestine. Et puis, même geste le lendemain, devant le mur, cette fois, du mémorial des victimes israéliennes d'attentats à Jérusalem. Ces deux visites n'étaient pas prévues au programme et elles sont fortes symboliquement. Le pape a voulu faire un geste d'une part contre un mur qui ne conduit pas à la paix, a expliqué son porte-parole, et d'autre part contre le terrorisme qui tue les innocents et détruit la paix. Le souverain pontife a aussi invité le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et son homologue israélien Shimon Peres à venir prier ensemble au Vatican, toujours pour cette paix qui se fait attendre au Proche-Orient. Les deux hommes ont accepté. Enfin, le pape François a appelé au libre accès des croyants au lieu saint de Jérusalem. Les chrétiens et les musulmans se plaignent souvent des restrictions imposées par l'occupation israélienne. Là encore, un message politique.
Sans surprise, en Égypte, l'élection présidentielle s'est transformée en plébiscite pour Abdel Fattah al-Sissi. Il obtiendrait plus de 90% des suffrages exprimés, plus de 23 millions, semble-t-il. Seul bémol, le taux de participation ne passerait pas la barre des 50% en recul par rapport à 2012. Résultat final et officiel la semaine prochaine. Un espion américain démasqué par erreur lors de la visite surprise de Barack Obama en Afghanistan, le nom du chef d'antenne local de la CIA à Kaboul figurait sur un document remis à la presse. La presse ne l'a pas diffusé, mais le mal est fait. Quant à Edward Snowden, on l'a vu pour la première fois cette semaine sur un média américain, NBC News. L'ancien agent de la CIA, par qui le scandale des écoutes était arrivé, s'est longuement exprimé depuis Moscou, où il est toujours réfugié. Il affirme notamment avoir reçu une formation d'espion, avoir travaillé sous couverture à l'étranger et avoir été un agent des renseignements militaires. Edward Snowden qui a le mal du pays. Anne-Marie Capomaccio à Washington.
Edward Snowden risque de longues années de prison pour vol de documents confidentiels. Exilé en Russie, il bénéficie d'un statut de réfugié dont il devra, à regret, dit-il, demander le renouvellement au mois d'août. Le jeune analyste de la NSA a le mal du pays.
La question ne se pose pas. J'aimerais rentrer à la maison. Depuis le premier jour.
Edward Snowden se défend d'être un espion russe. Il se présente comme un homme qui a agi pour le bien de tous, un lanceur d'alerte qui a fait ce qu'il pensait être son devoir.
J'ai certes perdu mon droit de voyager, mais j'ai gagné la possibilité de dormir la nuit. Je me sens bien car j'ai fait ce qui était juste.
La prestation d'Edward Snowden n'a pas ému le secrétaire d'État américain. Pour John Kerry, il ne peut y avoir de discussion tant que le jeune analyste ne vient pas faire face à ses responsabilités.
Un patriote n'aurait pas fui pour chercher refuge en Russie ou à Cuba ou ailleurs. Aux États-Unis, un patriote se tiendrait droit et défendrait sa cause devant le peuple américain.
Les soutiens d'Edward Snowden demandent l'immunité accordée aux lanceurs d'alerte pour l'ancien analyste de la NSA, alors que beaucoup ici le considèrent comme un traître qui doit répondre de ses actes.
Une banque française sous la menace d'une amende record de plus de 10 milliards de dollars. La BNP est accusée par Washington d'avoir contourné l'embargo américain contre Cuba et l'Iran entre 2002 et 2009. Les transactions n'étaient pas illégales au regard du droit international, sauf lorsqu'elles étaient libellées en dollars. Elles tombaient alors sous le coup de la loi américaine. Les États-Unis semblent vouloir faire un exemple politique plus que judiciaire. Frédéric Douzet, avant d'en revenir à la prestation d'Edward Snowden à la télévision américaine, un mot du pape François, c'est un pape qui tweete.
Oui, et c'est même un adepte du selfie, ces fameux autoportraits qu'on fait avec les smartphones et qu'on diffuse ensuite sur les réseaux sociaux. En revanche, je crois qu'il n'aura pas le droit d'avoir son mur Facebook. Mais bon, c'est un
pour
pape.
Pour quelle raison?
Parce que ça impliquerait beaucoup trop de travail pour les modérateurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas des commentaires inappropriés qui soient postés sur son mur. Mais c'est un pape qui a dit qu'Internet était un cadeau de Dieu, donc ça me le rend très sympathique.
Alors, avec le passage d'Edward Snowden à la télévision américaine, nous sommes en plein dans le sujet du dernier numéro de votre revue Hérodote, cyberespace, enjeux géopolitiques. Qu'est-ce que cette affaire a révélé? Une affaire qui a été extrêmement d'ailleurs minimisée par les Américains. Qu'est-ce que révèle cette affaire Snowden?
Je crois que c'est un vrai séisme politique. On a entendu un ancien officier du renseignement américain dire que sur une échelle de dégâts de 1 à 10, on était à 12. Je pense que ça révèle trois choses. D'une part, ça lance un débat sur la question de démocratie et surveillance à l'échelle nationale aux États-Unis, mais aussi dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Ça révèle l'ampleur de la domination des États-Unis dans le cyberespace, et donc ça suscite un certain nombre de questions et de revendications. Et puis, ça affaiblit temporairement, en tout cas, la position des États-Unis dans un certain nombre de négociations internationales. Et là, il y a pas mal de travail de réparation à faire.
Oui, parce qu'en fait, ils se sont fait prendre la main dans le sac, en fait.
Oui, et puis notamment dans le bras de fer qui les oppose à la Chine, où la revendication des États-Unis, c'est de dire il est légitime d'espionner entre États pour des raisons de sécurité nationale, mais il est complètement illégitime d'espionner pour avoir un avantage économique, avec des accusations contre les Chinois qui montent depuis environ 3 ans, et les représentants de Huawei et ZTE, qui sont deux équipementiers chinois, ont été sommés de s'expliquer devant le Congrès. On a eu une avalanche de révélations dans la presse. Les États-Unis ont joué la stratégie de l'humiliation publique pour essayer de faire plier la Chine, et se retrouvent aujourd'hui dans une position où les Chinois très légitimement disent « Écoutez, nous, on en fait quand même beaucoup moins que vous, et donc, qui êtes-vous pour nous donner des leçons ?» Donc, ils n'ont plus cette position morale pour exiger un certain nombre de choses, qui explique que les tensions continuent de monter et qu'on se retrouve maintenant avec l'inculpation des 5 officiers chinois.
Alors, c'est l'arroseur arrosé en quelque sorte. Est-ce que les lanceurs d'alerte sont absolument nécessaires selon vous?
La question n'est pas tellement de savoir si les lanceurs d'alerte sont nécessaires. La question est de savoir si on doit avoir ou non un débat sur ces programmes-là. On a pu constater avec les révélations d'Edward Snowden que des programmes incroyablement intrusifs étaient développés par les gouvernements, complètement dans le secret, qu'ils touchaient aux libertés civiles très directement, et que les outils permettaient une ampleur de ces programmes complètement inédite. Je crois que cette conversation sur jusqu'où on va dans le compromis sur les libertés civiles pour assurer notre sécurité collective, c'est une discussion qui est très importante, ce qui ne veut pas dire que certains programmes ne doivent pas rester secrets, mais je crois qu'il faut quand même avoir un débat sur qu'est-ce qu'on met en place comme processus de contrôle démocratique, comment on évalue aussi ces programmes de surveillance, combien d'attentats ont vraiment été arrêtés et à quel prix, quel budget ça représente. Toutes ces questions-là sont des questions qui n'ont pas vraiment été débattues ou par un tout petit nombre, et l'affaire Snowden a montré que même les représentants politiques américains censés superviser un certain nombre de ces activités n'étaient finalement pas au courant de tout.
Frédéric Douzet, nous allons marquer une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.